10 à passer de 36 minutes sur Polynésie Première. Et comme tous les lundis matin, nous accueillons notre psychologue de la famille, Nathalie Collin-Fagottin. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors on a changé de studio spécialement aujourd'hui et puis dans les pour les semaines à venir également. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser, du moins nous allons essayer de savoir ce qu'il faut savoir sur l'intelligence de l'enfant. Quel parent ne s'est pas interrogé sur l'intelligence de son enfant? Y a-t-il plusieurs formes d'intelligence? Peut-elle se mesurer? Et comment? Toutes sortes de questions que l'on pourrait se poser par rapport à ça.
Oui, l'intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas uniforme. Il y a plusieurs capacités regroupées en une seule notion qu'on appelle l'intelligence. Au cours des décennies, les théories se sont enchaînées pour tenter d'expliquer ce qu'était l'intelligence. Certaines capacités, performances ont été mises en valeur au fil du temps. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence est multiple. Elle est donc constituée de différentes aptitudes, capacités, performances. D'ailleurs, son origine latine signifie à la fois langagier, donc tout ce qui a trait à l'abstraction, et pratique, donc tout ce qui va plutôt avoir trait au concret, à l'action. Ce qui indique que l'intelligence n'est pas uniquement du domaine de la pensée, du raisonnement, mais bien un ensemble de capacités mobilisées pour une personne dans les différentes situations de la vie quotidienne. Même s'il existe plusieurs courants théoriques qui définissent différemment l'intelligence, toutes s'accordent à dire qu'une des principales fonctions de l'intelligence, c'est de s'adapter.
Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sortes ou bien différents types d'intelligence?
Oui, on peut grosso modo distinguer trois grandes catégories d'intelligence. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence pratique, qui va se mesurer aux connaissances, aux ressources, aux habiletés, par exemple dans un assemblage, une construction, l'attention, la capacité à se repérer dans l'espace. Ces aptitudes vont permettre de résoudre des problèmes pratiques, par exemple utiliser une machine ou un appareil, conduire un véhicule, prendre des transports en commun, jouer d'un instrument de musique, par exemple. Deuxième catégorie, l'intelligence abstraite, c'est celle qui nous fait raisonner, réfléchir, penser et ainsi refaire le monde. C'est-à-dire imaginer une stratégie, par exemple dans un jeu d'échecs, on peut être amené à réfléchir, à anticiper une stratégie, inventer un objet facilitant la vie quotidienne, on peut penser par exemple au concours de création, de concepteur d'objets, par exemple le concours Lépine, ou encore faire une dissertation philosophique qui est on ne peut plus abstraite et qui amène un raisonnement avec des hypothèses qui sont formulées d'une façon abstraite, donc c'est un raisonnement et une intelligence abstraite qui est mobilisée. Troisième catégorie, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence relationnelle, émotionnelle, qui va nous permettre de trouver les bons comportements et la meilleure façon pour communiquer avec les autres et avoir de bonnes relations avec eux. Cette intelligence-là nous aide à mieux comprendre, gérer nos émotions et celles des autres, à savoir décoder un comportement non-verbal, savoir quoi dire, comment réagir, quoi faire, suivant les situations. Bref, elle nous permet de mieux nous connaître, mieux connaître les autres, pour être le plus adapté, d'avoir les meilleures relations possibles avec les autres. Comme pour les autres formes d'intelligence d'ailleurs, ce manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle peut être un véritable handicap dans la vie. Au final, donc, ces trois catégories sont liées. On appelle ça, dans le jargon théorique de l'intelligence, le facteur G. On a besoin de connaissances et d'un minimum de réflexion quand on construit, par exemple, qu'on répare un moteur. On a besoin aussi de concrétiser des réflexions quand on est dans la conception. Ces différents courants théoriques, ces différents domaines de l'intelligence sont donc interreliés, même si elles ne sont pas représentées de façon égalitaire suivant les enfants. Certains enfants auront par exemple une intelligence dominante, ou en tout cas qui sera plus valorisée, plus développée. L'un sera doué pour concevoir quand l'autre excellera dans la mise en œuvre, ou un autre dans les capacités à communiquer, à s'exprimer oralement par exemple.
Justement, la question que l'on va vous poser à l'instant, les enfants sont-ils tous aussi intelligents?
Alors, l'intelligence, comme on vient de le dire, puisqu'elle est plurielle, pour savoir si les enfants sont intelligents, on va utiliser des repères qui permettent de comparer un enfant par rapport à un autre. Mais si l'on veut être fidèle à ce qu'est l'intelligence, on ne peut pas faire cet exercice de comparaison sans prendre en compte toutes les dimensions des intelligences possible, puisque, comme on l'a dit, certains enfants seront doués pour un type d'intelligence et d'autres pour un autre. Mm-hmm. Par exemple, certains enfants sont doués d'observation, de dextérité, mais ont un rythme plus lent. D'autres encore vont avoir des bonnes capacités à s'exprimer, mais n'ont que peu de logique concrète ou numérique. Il faut ajouter en plus que les rythmes de l'enfant sont différents dans tous les domaines, que ce soit pour l'apprentissage, de la marche, du langage, la motricité, leur capacité cognitive ou l'appareil à penser se développe donc à des rythmes différents. La prise en compte également de l'âge, de la personnalité et de l'histoire de l'enfant sont importantes à considérer. Difficile donc d'établir des comparaisons strictes. On ne peut que donner des repères qui sont calculés par certains tests d'intelligence et qui sont destinés uniquement à situer un enfant par rapport aux autres enfants d'un même groupe d'âge dans une même culture d'appartenance.
Mais alors, est-ce que l'intelligence est-elle fixe ?
Bien au contraire, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'un long processus qui a commencé dès le début de la vie de l'enfant et qui continue jusqu'à la fin de la vie. Plus on l'a dit, il s'agit du résultat d'interaction entre les différents sous-domaines mobilisés dans le cas de l'intelligence concrète ou abstraite ou relationnelle. L'intelligence, en plus, connaît des étapes communes à tous et aussi des particularités individuelle. Elle peut stagner, elle peut aussi progresser rapidement. Ses caractéristiques, de plus, peuvent changer tout au long de la vie. Un événement, une rencontre, une formation peuvent influencer cette intelligence. Elle n'est donc pas acquise une bonne fois pour toutes, même si nous avons tout un chacun un bagage qui nous est propre, un bagage unique. On peut cependant l'entraîner à l'aide d'exercices qui font travailler certaines aptitudes. Je ne nommerai que celles-là, mais on peut travailler la mémoire, notre capacité au calcul mental, nos habiletés spatiales. Donc ces aptitudes-là peuvent se développer tout au long de la vie.
Est-ce que, une question par ailleurs, est-ce qu'on peut être intelligent, par exemple, dans une matière, plus dans une matière qu'une autre, par exemple les mathématiques, ou on n'aime pas les mathématiques, mais on peut être plus une lumière dans une autre matière, comme l'histoire ou le français? Est-ce qu'on peut appeler ça comme une intelligence aussi?
Alors, les intelligences, on va dire, vont être utilisées, mobilisées de façon différente suivant les matières scolaires. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. C'est dans quelle mesure l'école ou la réussite scolaire parle de l'intelligence des enfants. Hein, sans vouloir développer plus ce sujet-là aujourd'hui, on pourra bien comprendre par rapport à ce qui vient d'être dit, qui ne sont pas tout à fait reliés. D'une part, parce que dans une matière, les performances de l'enfant et de l'élève vont être mobilisés d'une manière particulière, peut-être justement sur ses capacités spatiales, numériques dans certaines matières comme les mathématiques, d'autres capacités langagières, verbales, peut-être aussi de mémoire sur la mémorisation des dates, la compréhension du monde, sur d'autres matières comme l'histoire-géographie ou encore les langues ou le français. Donc ces matières vont mobiliser des intelligences différentes chez l'enfant. Mais on sait néanmoins que l'école et les matières qui sont enseignées à l'école ne mobilisent pas tous les types d'intelligence possibles chez l'enfant, ou en tout cas pas de manière égalitaire. Certaines capacités, certains types d'intelligence vont être plus mobilisés que d'autres. Je pense par exemple aux capacités autour du langage, aux performances autour du langage, qu'il soit oral ou écrit. Donc, on peut être plus doué dans une matière ou dans une autre parce qu'on a une intelligence plus développée dans un domaine ou dans un autre.
Alors, on en fera peut-être une autre émission avec ce type d'intelligence. Est-ce que des enfants peuvent-ils être bloqués dans leur intelligence, justement ?
Oui, l'intelligence est, comme je disais juste avant, dynamique et elle est liée au vécu, à l'histoire personnelle, à l'expérience personnelle que l'on va vivre. L'intelligence, elle peut donc être stimulée par l'environnement, elle peut être aussi bloqué. On sait par exemple que le développement de l'intelligence et le développement en général d'ailleurs de l'enfant est étroitement lié à ce qu'il vit dans ses relations affectives. Par exemple, il a été observé que chez des enfants qui ont été brutalement, prématurément séparés de leurs parents et sur une longue durée, le développement général était ralenti, voire stoppé pour les cas les plus graves, allant même jusqu'à une incapacité à parler, à se mettre à parler, à réfléchir, à jouer, à nouer des relations avec les autres. Donc comme dit plus loin, sous l'effet de fortes émotions, un enfant peut perdre temporairement ou durablement ses moyens et échouer dans un domaine ou dans un autre. On sait aussi, par exemple, par rapport à une épreuve, un examen, par exemple, qui peut être générer beaucoup de stress. Donc ponctuellement, on peut complètement perdre ses moyens. C'est comme ça d'ailleurs qu'on le dit familièrement. On perd réellement ses moyens sous l'effet d'un stress énorme lié à une passation, hein, ou à une compétition ou à un moment de stress important, ce qui va entraîner une perte des capacités temporelles, donc chez l'enfant ou d'ailleurs ou chez même les plus grands, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une perte des capacités réelles, mais sur le moment elles ne peuvent pas être mobilisées, ce qui veut dire que l'état d'esprit de l'enfant doit également être pris en compte pour comprendre et savoir ce qui se passe pour lui en termes d'intelligence et de capacités réelles et de sa capacité à le mobiliser.
Alors, en parlant de capacité, est-ce qu'on peut justement mesurer cette intelligence?
Oui, ça fait des décennies qu'on essaye de mesurer justement cette intelligence grâce à, notamment à des tests dits déficience mentale. D'ailleurs, certains
diront... Rien à voir avec le QI.
Alors si, justement, à voir avec le QI, d'accord. Puisque ces tests, ces mesures d'efficience mentale ont pour objectif d'établir un quotient intellectuel, donc le fameux QI, qui est chiffré et qui est supposé être le résultat donc de ces tests d'efficience mentale. Certains d'ailleurs diront que le QI n'a pas d'existence en dehors de ces tests. D'ailleurs, le quotient intellectuel est forcément limité à la qualité du test utilisé, mais surtout à la qualité du test, la qualité de la passation et donc de l'utilisateur et de celui qui fait passer le test. D'où la nécessité d'une formation solide en psychologie pour pouvoir prétendre bien évaluer les résultats obtenus à ce genre de test. D'ailleurs, seuls les psychologues sont habilités à passer des tests d'intelligence. Les résultats obtenus, donc le quotient intellectuel, qui en fait n'est pas qu'un chiffre, qui est la somme et le résultat de plusieurs chiffres, on va dire, qui est une moyenne, enfin additionnés les uns aux autres, et qui sont les résultats chiffrés de sous-tests. Donc le QI est le résultat global final. Ce résultat, ce QI, permet donc de situer un enfant par rapport à une norme, par rapport à des normes qui ont fait l'objet d'observations et d'études très poussées. Il teste un ensemble d'aptitudes, de performances, de paramètres qui renvoient à la notion plus globale d'intelligence. Par exemple, les performances qui sont testées peuvent être la dextérité, la logique, la mémoire, la rapidité d'exécution, les connaissances, les compétences verbales, etc. Le quotient donc obtenu à la fin d'un long et minutieux travail d'évaluation et d'analyse par le psychologue, le QI donc, est rapporté à une norme qui permet de dire si un enfant est en dessous ou au-dessus d'une norme, sachant que plus de 75% des enfants sont au-dessus de cette norme pour les mêmes enfants par rapport au même groupe d'âge. Donc en outre, des précisions sont données. Quand on donne un QI, on ne donne pas juste un chiffre, on donne des informations, des commentaires, on donne une analyse commentée de ce qu'est le QI et de ce qu'ont les chiffres des sous-tests qui ont été passés. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que les tests de QI donnent une vision parcellaire et temporelle les aptitudes intellectuelles. En effet, les tests ne mesurent pas tous les éléments en jeu dans la résolution de problèmes. Les aptitudes relationnelles, par exemple, ne sont pas prises en compte ou peu prises en compte, alors qu'on sait qu'elles sont primordiales dans la résolution de certains problèmes. La capacité à gérer aussi ses émotions, on parlait du stress tout à l'heure, c'est une donnée très importante illustrée précédemment, et l'ouverture d'esprit, la créativité ou encore mobiliser son imagination ne sont pas non plus mesurées dans ce test. Donc au final, le QI est une indication, un indicateur sur le potentiel d'un enfant ou au contraire à ses difficultés. Il peut donc aider, par exemple dans le cadre d'une orientation d'un élève ou la mise en évidence de qualités dites exceptionnelles dans un domaine ou dans un autre, et il doit donc être utilisé avec grande prudence.
Nathalie, est-ce qu'il y a un rapport entre, justement en parlant de QI, est-ce qu'il y a un rapport avec un enfant surdoué?
C'est un rapport, oui, bien sûr, puisque...
Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
quand on a un enfant surdoué,
il n'y a
pas d'inquiétude à avoir dans la mesure où on trouve un environnement qui peut vraiment permettre à l'enfant de développer son intelligence dans un environnement propice pour ce développement de son intelligence. Il faut savoir que les enfants surdoués, par exemple, ne sont pas forcément en réussite scolaire pendant tout leur cycle scolaire. La réussite scolaire et le fait d'être précocement, enfin intellectuellement précoce en termes d'intelligence ou d'avoir eu un niveau d'intelligence, un QI supérieur de beaucoup à la moyenne, ne dit pas forcément une capacité à s'adapter à toutes les situations de la vie quotidienne. La preuve en est, c'est que certains surdoués s'ennuient à l'école ou voire même ont des comportements inadaptés ou n'arrivent pas à s'adapter au système tel qu'il est proposé dans le système scolaire et sont parfois même en véritable échec scolaire. Donc, ce qui peut inquiéter, c'est quand, justement, cette différence par rapport aux autres élèves peut nuire au bien-être et au développement général de l'enfant. Évidemment, ça n'est jamais une bonne chose que l'enfant se sente en marge différent ou en situation d'inadaptation ou d'échec scolaire. Donc ça peut être une problématique particulière. Pour le reste, de toute façon, comme tous les enfants, comme je disais tout à l'heure, on vient avec un bagage qui est le nôtre et qui ne demande qu'à se développer. Toute la question sera de trouver l'environnement, la situation qui va être adaptée à l'enfant pour lui permettre de bien grandir, que cette différence d'intelligence ne soit pas un handicap, mais au contraire une plus-value, une valeur ajoutée à sa vie et des ressources sur lesquelles il pourra s'appuyer.
Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on se retrouve avec un enfant surdoué, avec un élève surdoué, par exemple, en CM2, est-ce qu'il se pourrait qu'on lui fasse passer la sixième ou bien la cinquième directement au lieu de passer par la sixième? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de cas?
Alors, c'est vraiment du cas par cas parce qu'encore une fois, on peut pas donner une seule définition de l'enfant surdoué puisque, comme je disais tout à l'heure, les différents types d'intelligence font que certains enfants surdoués vont l'être dans certaines aptitudes, performances, et d'autres dans d'autres types d'aptitudes. On sait aussi que l'enfant surdoué est effectivement par rapport aux âges des autres enfants du même niveau. Il y a une autre question qui n'est pas prise en compte dans cette question de l'intelligence, du quotient intellectuel, c'est le degré de maturité affective, j'entends. On peut se sentir tout à fait capable, un élève peut être tout à fait capable de résoudre des problèmes du programme de collège alors qu'il est au niveau primaire, en mathématiques par exemple, sans pour autant se sentir à l'aise avec des enfants qui ont 2-3 ans de plus que lui, parce que justement il ne se sent pas à l'aise dans un groupe d'élèves qui sera plus âgé que lui. Donc il faut faire attention aussi à cette maturation, à cette maturité affective qui est importante à prendre en compte parce que dans la scolarité, pour que l'enfant travaille bien et se sente à l'aise, il faut qu'il puisse être aussi à l'aise dans ses relations avec les autres.
Donc faire très attention au cadre et puis prendre conscience de cette maturité que l'enfant a.
Oui, donc ce serait dommage de la freiner et en même temps d'être prudent sur le cadre effectivement qu'on leur propose.
10h54 minutes sur Polynésie Première. Le sujet d'aujourd'hui, l'intelligence des enfants. Sujet que l'on pourra retrouver cette semaine sur le site Family Psy. On aura le temps de poster la vidéo. Évidemment, vous retrouverez le podcast sur le site également de Polynésie Première et familypsy.com. D'autres ateliers à venir dans les prochaines semaines?
Il y a un séminaire qui est en préparation prochainement. Donc, on en parlera dans les émissions à venir, mais déjà si vous avez des informations sur ce séminaire Un jour pour ma famille, vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous y répondre.
N'hésitez surtout pas et puis faites un petit tour sur la page Facebook Family Psy et le site internet
familypsy.com.
Merci beaucoup Nathalie Collin-Fagotin. Je rappelle que vous êtes psychologue de la famille et formatrice également.